Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur ! Regarde, papa, il nous dit sûrement quelque chose.
Les plantes dominent l'environnement terrestre. Elles forment 99% de sa biomasse. Pourtant, on les connaît mal. Leur biologie est étudiée par les scientifiques, mais certains chercheurs commencent à les considérer sous un angle différent. Car les plantes se révèlent être moins passives qu'en apparence. Elles sont capables de ruses étonnantes, perçoivent les sons, en émettent, et elles sont sensibles, si sensibles que ceux qui les étudient de près évoquent une neurobiologie des plantes. C'est ce que vous allez découvrir dans cette émission avec François Bouteau, trop discret chercheur qui, avec son équipe de l'Université Paris Diderot, analyse les réponses des cellules végétales aux signaux environnementaux. François Bouteau s'est associé au Laboratoire international de neurobiologie végétale de l'Université de Florence, en Italie, dirigé par le célèbre Stefano Mancuso, et à l'Université de Kitakyushu, au Japon. Il dit que nous devons changer notre regard sur les plantes, car elles ont, au fil de l'évolution, développé une troupe blanche forme d'intelligence.
Les aventuriers sur France Inter.
On peut parler de cognition végétale, d'intelligence végétale, ça va dépendre des définitions. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces sujets et qui sont des questions de définition, d'utilisation des mots. Donc si on utilise une définition relativement simple comme celle qui est proposée par Stefano Mancuso, à savoir la capacité à percevoir un signal et à y apporter une réponse adaptée, oui, les plantes sont intelligentes. Si on prend d'autres définitions proposées qui vraiment impliquent la cognition humaine, la capacité de réflexion, là, on peut dire que les plantes ne sont pas intelligentes.
Elles n'ont pas de cerveau, mais on y reviendra dans l'émission. Elles voient, elles entendent, elles sentent. On peut dire ça.
Oui, au terme de sensibilité, ça, les plantes sont extrêmement sensibles. Donc elles ont les mêmes sens que les animaux, elles en ont peut-être d'autres. Donc des capacités de percevoir d'autres signaux que nous, on n'aurait pas l'utilité de percevoir. Donc la sensibilité, oui, ça c'est très net, c'est même extrêmement sensible. Et c'est aussi lié à leur mode de vie. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement finalement.
Vous avez cité tout à l'heure un grand scientifique italien, Stefano Mancuso, avec qui vous travaillez. Et Stefano Mancuso, c'est vraiment le pape de l'intelligence végétale. Il a écrit beaucoup de livres à ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait comme expérience aujourd'hui dans les laboratoires pour comprendre les plantes?
Alors, si on revient sur Stefano Mancuso, il est, comme moi d'ailleurs, à la base électrophysiologiste. C'est-à-dire qu'on va mesurer des courants, des signaux électriques chez les plantes de la même façon qu'on le fait pour les neurones humains. Donc c'est pour ça qu'il y a une approche technique qui est très proche de ce qui se fait en neurobiologie. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions, effectivement, sur le fonctionnement des plantes et de faire des analogies avec les systèmes neurobiologiques. Donc, c'est ça qui l'a amené à se positionner avec František Balúska et à créer la fameuse société Plantes Neurobiologie en 2005.
Vous, dans votre laboratoire, qu'est-ce que vous faites?
Alors, justement, je fais de l'électrophysiologie. Concrètement, on va prendre une cellule végétale, on va lui mettre une électrode. Alors c'est de la micromanipulation, on joue un peu, hein. C'est comme avec des joysticks, on attrape une cellule, on va mettre une microélectrode à l'intérieur de la cellule et on va mesurer ce qu'on appelle la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur. Et les plantes, elles sont capables donc de jouer avec cette polarisation électrique, c'est-à-dire que quand elles ont un stimuli, eh bien, va y avoir des courants qui vont représenter des signaux de perception du stimuli qu'elles vont recevoir. Donc on s'amuse à faire ce genre de choses. J'hésite pas à employer le terme amuser parce que la science peut être amusante. On s'amuse à faire ce genre de choses et donc à voir comment les plantes répondent aux stimuli environnementaux.
François Bouteau, vous n'êtes pas le premier à faire ça parce que déjà en 1973, au Phytotron de Gif-sur-Yvette, c'était un grand centre de recherche sur les plantes, on coupait la tête aux plantes. Écoutez ça.
Les conséquences du traumatisme provoqué lorsque l'on décapite la plante.
Alors, oui, mademoiselle Desbiers, que nous venons de voir à l'instant, procède à une expérience que je voudrais que vous nous racontiez.
C'est très simple, c'est une plante de poids sur laquelle on va fixer deux électrodes qui elles-mêmes sont reliées à un appareil enregistreur-amplificateur. Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Elle fixe les électrodes.
Pour le moment, les électrodes sont en train d'être fixées. En voilà la seconde. Et elle va procéder à l'opération. Voilà. Et on va passer sur l'enregistreur et vous allez voir se déclencher le fonctionnement au fond du curseur qui montre la réaction physiologique extrêmement nette que l'on observe. Autrement dit, la plante réagit lorsqu'on lui coupe la tête par une onde électrique qui va se propager tout le long de son corps.
Ça, c'était en 1973. C'est ce que vous faites ?
On fait des choses de ce type-là, oui, toujours. Là, à l'heure actuelle, j'ai une étudiante qui s'intéresse à la réponse des plantes au stress thermique. Donc, de la même façon, on met des électrodes le long de la plante. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on réchauffe les racines, en fait. Et on regarde ce qui se passe. Et on a effectivement propagation de signaux électriques dans la plante. Alors là, on a un enregistrement sonore. À partir du moment où on a un signal électrique, il suffit de mettre un haut-parleur derrière l'amplificateur. Et puis, on peut transformer ça en son. Donc c'est assez facile, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à ça à l'heure actuelle. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce type d'expérimentation sont extrêmement anciennes. Ça date même du milieu du 19e siècle, il y avait déjà des expérimentations de ce type-là, enfin peut-être un peu fin du 19e siècle, où on mesurait des différences de potentiel électrique chez les plantes. Donc c'est extrêmement ancien.
Ça passe par où ce courant électrique ? Par la sève ?
Alors ça passe par, effectivement... les vaisseaux du phloème, donc c'est les vaisseaux qui permettent la conduction de la sève élaborée. Donc oui, c'est par là, c'est les cellules vivantes qui donc permettent de transmission du signal électrique.
Qu'est-ce que vous en concluez, vous, en tant que scientifique, que la plante est sensible ?
C'est la signalisation électrique, c'est finalement une réponse au fait que la plante elle a perçu un stimuli, donc elle est de fait sensible. Mais en plus d'être sensible, elle est capable de transmettre l'information dans toutes les parties de la plante. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir une réaction finalement adaptée par rapport au stress ou stimuli qu'elle va recevoir.
Écoutez ce que disait le professeur Chouard en 1973, le professeur Chouard du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il parlait de la différence entre animaux et végétaux et vous me direz si vous êtes d'accord.
Les plantes, elles ont choisi de fabriquer des matières telles que les sucres, telles que la cellulose, le bois plus tard, avec la lumière solaire et le gaz carbonique. Et ainsi, elles sont indépendantes de tout autre être. Elles peuvent vivre à elles seules. Tandis que les animaux, eux, ils ont opté pour le système nerveux, la musculature, petit à petit la conscience claire pour elle-même, et finalement, c'est l'homme. Mais alors, ils sont entièrement tributaires pour leur nourriture, des plantes qui doivent les fournir. Tout le monde sait que les animaux, même ceux que nous mangeons, en fait, ils existent parce qu'ils ont mangé de l'herbe.
C'est bien vu ou pas ?
Alors, je dirais que oui, c'est bien vu pour toute la partie trophique, c'est-à-dire la façon de s'alimenter. C'est-à-dire que les plantes, effectivement, alors, la notion de choix chez les plantes, elle peut être bien sûr discutée, mais dans l'évolution, il y a l'utilisation de la photosynthèse par les plantes. Et la photosynthèse, c'est ça qui les rend donc autotrophes. Donc elles peuvent, avec le CO2, oui, donc avec le CO2 et la lumière, elles vont synthétiser du sucre, voilà, de façon simplifiée. Et le sucre, c'est ce qui sert au métabolisme de toutes les cellules vivantes, donc les plantes mais les autres. Donc soit on fait de la photosynthèse et on est autonome, soit on a besoin de se nourrir aux dépens donc, d'organismes qui ont déjà du sucre. Donc soit des plantes, soit si on est carnassier, ben, d'animaux qui ont mangé des plantes. Donc c'est toujours ce système-là. Alors après, effectivement, chez les plantes, le fait de faire la photosynthèse, c'est certainement ça, au niveau terrestre, qui leur a permis de s'ancrer et d'être des organismes qui ne bougent pas. Donc ils sont fixés. Les animaux, eux, il faut qu'ils aillent chercher le sucre. Donc ils ont le déplacement. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est l'évolution un peu de ce qu'on entend à l'heure actuelle, c'est en termes de neurobiologie. C'est-à-dire qu'effectivement, chez les animaux et l'homme, il y a une adaptation incroyable de tous ces systèmes neurobiologiques. Mais finalement, si on reprend ce que défend Stefano Mancuso et Franciszek Balusca sur la neurobiologie végétale, le terme est provocateur. Parce que neurobiologie, c'est donc neurones, c'est donc le cerveau de l'homme, c'est tout de suite à ça qu'on pense. Chez les plantes, il n'y a pas de neurones, ça c'est une réalité. Par contre, la neurobiologie, si on considère que c'est la capacité à percevoir un signal et à le transmettre de manière à avoir une réponse adaptée, les plantes, elles font exactement la même chose, notamment avec les signaux électriques qui passent, comme on en a parlé, par les vaisseaux du phloème. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les signaux électriques qui passent par le phloème ressemblent beaucoup aux signaux qui passent dans les nerfs. Donc finalement, on a un type de messager électrique qui passe à travers tout l'organisme, mais pas par les mêmes structures. Si on considère la neurobiologie comme la science qui étudie ces signaux, on peut utiliser la neurobiologie aussi comme science pour les plantes.
Voilà pourquoi Stefano Mancuso et vous dites que les plantes peuvent sentir, voir émettre des sons même.
Oui, tout à fait. Alors émettre des sons, c'est très récent. Je dirais qu'il y a un papier qui demande encore à être étayé, vérifié, mais il semblerait que sous certaines conditions, elles soient capables d'émettre des sons dans des fréquences que l'homme ne peut pas entendre, hein, mais que certains insectes pourraient capter. Alors je pense qu'au-delà de donc vraiment émettre des sons, surtout ce qui est plus étayé à l'heure actuelle, en tout cas il y a pas mal de données qui sortent, c'est qu'elles sont capables de percevoir des sons et d'utiliser cette information donc pour réagir.
Et on en parlera dans un instant. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high. I tried to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. Revival, c'était Grégory Porter.
Les aventuriers sur France Inter.
Les plantes n'ont pas de cerveau et pourtant elles ont de la mémoire. Les plantes n'ont pas d'oreilles et pourtant elles sont sensibles au son. Elles sont même capables d'en émettre pour attirer les insectes. François Boutot est écophysiologiste à l'université Paris Diderot. Il mène de nombreuses expériences pour comprendre les capacités des plantes.
Oui, les plantes sont capables de percevoir les sons. Moi, j'ai bien aimé la façon dont Stefano Mancuso a présenté ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est posé la question de se dire pourquoi un organisme vivant, à l'heure actuelle, se priverait d'informations qui lui viennent de l'environnement. Je trouve que c'est une très belle approche parce qu'en fait, les plantes, pour nous, ça n'a pas d'oreille, ça n'entend pas. Mm-hmm. Mais en fait, si on se pose la question comme ça, effectivement, elle est pertinente. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait écouter l'enregistrement d'une rivière à des plantes. Et ce qu'il a pu observer, c'est que les racines qui d'habitude poussent en sentant la gravité donc vers le sol, eh bien, lorsqu'on leur rajoutait une source sonore, donc un bruit d'une rivière en l'occurrence, eh bien, elles s'orientaient vers le bruit de cette rivière. Donc c'est très étonnant, c'est un phonotropisme donc, qui a pu être maintenant étayé par d'autres équipes et d'autres expérimentations.
Mais pourquoi elles vont vers la rivière? Parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin d'eau?
Alors, c'est l'idée qui vient. Maintenant, ça, c'est encore, il y a des travaux à faire pour bien démontrer, effectivement, si c'est pour ça. Intuitivement, c'est ce qu'on pense. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de milieux où il n'y a pas de bruit de rivières qui sont nettes. Et en plus, quand on s'intéresse à la propagation des ondes sonores dans le sol, c'est un monde très, très complexe. Donc là, il y a beaucoup d'études scientifiques qui manquent pour être certain du pourquoi, du comment dans cette affaire-là. Il y a une belle étude qui a été publiée sur les fleurs qui seraient capables de percevoir le son d'une abeille qui arrive. Donc en fait, elles seraient capables de faire les fréquences du vol. Elles se mettraient à synthétiser le sucre dans le nectar à ce moment-là uniquement. Et là, ça a un intérêt pour la plante d'un point de vue énergétique. Donc on comprend bien l'intérêt là de percevoir des signaux sonores.
Mais elle se mettrait ou elle se met? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ce que vous venez de dire?
Alors il y a une publication qui est évaluée par les pairs qui est sortie là-dessus, effectivement, oui. Donc la synthèse des sucres serait faite au bout de quelques minutes après avoir perçu le son d'une abeille. Et puis bien sûr, ils ont fait des contrôles pour vérifier qu'il y avait une spécificité par rapport à cette fréquence sonore.
Les plantes qui aiment les sons, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. En 1976, déjà, on faisait écouter de la musique aux tulipes.
Alors, il y a quelques exemples scientifiques. Par exemple, dans les laboratoires parfaitement sérieux et compétents de l'université de Berkeley, on avait soumis des tulipes à l'action des sons. Et alors, on avait remarqué que les tulipes auxquelles on avait fait entendre des enregistrements de musique, qui étaient déterminés d'une façon purement empirique, parce qu'on ne sait pas évidemment pas quelle musique aiment les tulipes. Enfin, on a essayé différentes choses, et on a remarqué qu'elles fleurissaient beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions que les mêmes tulipes abandonnées dans des serres silencieuses, par exemple. Les soviétiques ont fait des expériences équivalentes, et ils ont remarqué que dans les plantations de tubéreuses, la proximité de sons incommodants, comme par exemple les sons d'appareils d'humidification, le vrombissement des ventilateurs, le bruit des pompes, empêchait vraiment les plantes de pousser. Et eux aussi ont effectué un certain nombre d'expériences sur la relation entre la musique et les plantes.
C'était sur France Musique en 1976 avec Jean-Michel Damion qui a présenté une émission. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça très intéressant. Hein. Le sujet réémerge à l'heure actuelle. Il y a toujours eu ce souci, quelque part. Et je pense qu'il est traité de façon un peu plus, je dirais, scientifique à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on essaye d'isoler des fréquences et de voir en quoi les fréquences sonores qui sont utilisées ont une pertinence pour la plante d'un point de vue biologique dans son environnement. Le fait que ces fréquences elles aient un impact, effectivement, s'est renseigné depuis un certain temps. Alors, il y a des expériences à l'heure actuelle tout à fait incroyables. En Chine, notamment, ils mettent des gros haut-parleurs dans des plantations. Parce que leur objectif, c'est la culture, c'est de la biomasse.
C'est que ça pousse.
Et c'est que ça pousse, voilà. Et donc, ils mettent du 100 décibels, donc c'est quand même énorme comme son. C'est proche d'un avion au décollage. Et c'est un son blanc, c'est-à-dire que c'est toutes les fréquences. Et apparemment, ça pourrait améliorer certaines choses. Mais les plantes, dans leur environnement, elles ne sont pas du tout normalement soumises à ces fréquences. Donc, il y a deux choses. D'une part, forcer des plantes à sentir des choses pour une production. Donc, c'est un outil qui pourrait être utilisé. Mais après, il y a aussi comprendre ce que les plantes dans l'environnement, comment elles utilisent les signaux qui sont des signaux concrets, réels de leur environnement. Et là, il faut travailler un peu plus finement sur des fréquences, des intensités. Et je pense que là, il y a un grand champ de travail parce qu'il y a de la donnée qui sort, mais pour l'instant, on a du mal à la recontextualiser.
Mais elles perçoivent les sons comment? C'est l'électricité qui fait qu'elles perçoivent?
Elles n'ont pas d'oreilles, c'est très clair. Bon, ça, c'est comme pour beaucoup de choses. Chez les plantes, il n'y a pas d'organes dédiés. Elles seraient capables de percevoir par à peu près tout l'organisme, donc de percevoir des signaux. Après, c'est pareil. Toutes les plantes, c'est comme chez les animaux. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes capacités. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau cellulaire, il y aurait des événements cellulaires qui permettrait de percevoir ces sons qui ressemblent à ce qui existe chez les animaux dans des cellules qui servent à ça, au niveau des oreilles par exemple. Il y aurait une conservation des mécanismes cellulaires et moléculaires qui permettent de percevoir des ondes sonores.
Et est-ce que vous avez déjà entendu le son de la plante stressée ?
Non. Alors d'une part, je sais que Stefano Mancuso avait enregistré, mais dans des chambres spécialement dédiées pour enregistrer des sons très très fins, des tout petits cliquetis en fait qui seraient liés à la croissance vraiment végétale, c'est-à-dire que vous avez une paroi cellulaire, donc au niveau des molécules qui se détendent, vous auriez des cliquetis. Mais d'abord, c'est infime comme son, donc l'oreille humaine ne pourrait pas les capter. Et après, dans l'étude dont on parlait tout à l'heure sur les sons émis par les plantes, les fréquences ne sont pas des fréquences audibles par les plantes, par les hommes, pardon.
Qu'est-ce que vous pensez des appareils qui permettent de retranscrire un son émis par une plante ?
Alors ça, c'est autre chose. C'est qu'en fait, justement, c'est des signaux électriques des plantes qui sont pas forcément des sons. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il suffit de mettre un amplificateur et on va transformer ça en son. Moi, j'ai fait ça pendant ma thèse il y a très longtemps parce que je faisais l'électrophysiologie. En fait, je travaillais sur l'Hevea brasiliensis. C'est l'arbre qui produit le caoutchouc naturel. Et j'avais mis des électrodes sur mon arbre et j'avais branché ça à mon ampli et mis un petit haut-parleur. Et je disais aux gens qui rentraient dans la pièce, dites bonjour à mon arbre, et ils touchaient les feuilles, et j'avais un changement de signal électrique, donc un changement de fréquence sur mon haut-parleur, et puis ça faisait un petit bip, comme ça. Donc ça, on peut jouer
c'était
à
joli.
Ça. Non, pas particulièrement, c'était juste un jeu comme ça. Mais finalement, pour moi, ça m'a fait réfléchir, parce que j'ai fait ça il y a 25-30 ans, pour m'amuser, mais c'était évident pour moi que les plantes étaient capables de faire ça, et j'ai réalisé au fur et à mesure de mon parcours que les gens n'imaginaient même pas ça.
Aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce des appareils qui retranscrivent ces signaux. Écoutez la musique du camélia. Qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est ludique ?
C'est ludique, oui, c'est tout. Pour moi, ça n'a pas de sens. À l'heure actuelle, on est contacté souvent, ça nous arrive plusieurs fois en tout cas, par des start-up et des gens qui vendent des systèmes comme ça en fait. Enregistrer un signal électrique chez une plante, c'est très facile. Comme je le disais, c'est fait depuis 150 ans, voire plus. Donc, c'est pas très dur de le faire. Le problème, c'est de comprendre à quoi ils servent ces signaux, comment les interpréter. Et là, il y a des équipes qui s'intéressent à ça. Il y en a plusieurs à travers la planète. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais par contre, il y a un bel enjeu. Parce que si on arrive à décrypter comment ces signaux électriques peuvent être un indicateur de l'état physiologique de la plante, là, on pourrait avoir des applications derrière. Donc le son, c'est ludique, mais il y a des enjeux éventuellement derrière.
Donc les plantes entendent des sons, peuvent en émettre aussi, mais est-ce que les plantes ont de la mémoire ?
Alors ça, c'est d'autres expériences. Il y a une très belle expérience de Monica Gagliano, donc en Australie, où elle a joué avec une... J'y ai toujours joué quand on fait de la recherche.
C'est bien.
Oui, c'est bien, je pense. Elle a utilisé la sensitive Mimosa pudica, en fait, qui a la capacité d'avoir un mouvement rapide. C'est-à-dire quand on touche ses feuilles, elle est très sensible et elle referme ses feuilles. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a placé ce mimosa sur une potence et elle l'a laissé tomber. Et donc, le mouvement de l'air, c'est un stimuli pour la plante et elle ferme ses feuilles. Et donc, elle a fait ça à plusieurs reprises et au bout d'un moment, la plante ne ferme plus ses feuilles. Parce qu'en fait, elle a réalisé que ce mouvement de tomber de quelques centimètres avec le pot n'était pas délétère pour elle. Donc, elle arrête de le faire. Donc, d'une part, ça veut dire qu'elle est capable de percevoir le stimuli, de l'interpréter en se disant qu'il n'est pas délétère. Et en termes de mémoire, puisque c'était la question, la plante, donc, lorsqu'on lui fait ce stimuli, ne se referme pas pendant 28 jours. Donc, elle est capable de stocker cette information pendant 28 jours. On ne sait pas comment, mais donc, il y a une mémoire effectivement possible chez les plantes.
Quand vous regardez une plante, François Bouteau, vous pensez à quoi ?
Alors j'ai peut-être une vision altérée parce que moi dans mon laboratoire, en fait, on travaille avec des plantes entières dans lesquelles on met des électrodes, mais on travaille aussi avec des fragments de plantes, c'est-à-dire qu'on va faire des cultures cellulaires pour justement faire des études au niveau cellulaire. Donc c'est-à-dire que concrètement, on va prendre un fragment de plante, donc on la coupe, et on va la mettre dans des milieux qui vont dissocier sa structure. On va former ce qu'on appelle des cales, donc des espèces de grumeaux, et on va utiliser ces grumeaux qu'on maintient en culture, stérile, et donc on va en faire des cultures cellulaires, des cellules isolées. ces cellules végétales, je les vois sous des formes extrêmement différentes.
Oui, c'est pas très romantique.
C'est pas du tout romantique, non. Mais par contre, je peux très bien me réjouir d'une balade en forêt et voir les beaux arbres. Je suis sensible comme tout un chacun.
C'est pas facile. Prends ton temps d'abord. Tu es mon ami, mon meilleur ami. Prends ton temps d'abord. Tu fais ami avec des Lucie, oh, je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends, but I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle dit nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
C'est Chris Garneau qui chantait Luciole.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Il y aurait chez les végétaux de nombreux capteurs sensoriels avec lesquels ils perçoivent leur environnement. Comme les êtres humains et les animaux, les plantes sont dotées d'une capacité de proprioception qui leur permet de contrôler leurs mouvements et de maintenir leur droiture. Quand un végétal a été incliné, il se redresse.
Les plantes perçoivent la gravité, en fait, elles ont au niveau des apex racinaires notamment des structures particulières qu'on appelle les statolithes. En fait, c'est comme des petites boules, on va dire, qui tombent au fond de la cellule et donc ça appuie sur le bas de la cellule, donc c'est un stimuli mécanique. Et donc ça leur permet comme ça de sentir la gravité. Et donc quand on réoriente une racine, on voit ces boules au niveau cellulaire, hein, c'est vraiment au niveau microscopique, on les voit qui vont se redéplacer pour aller toucher la membrane, donc dans le sens de la gravité. Et ça permet à la plante donc d'avoir toute une réponse derrière qui va réorienter sa croissance pour partir dans le sens de la gravité.
Si on retourne un pot de fleurs, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, si on le retourne complètement, la terre va tomber.
Oui.
Mais si on le retourne, disons qu'il y a des expériences classiques où on les met à 90 degrés et on voit bien que la plante va se réorienter vers le haut. Donc, d'une part, elle perçoit au niveau racinaire pour aller vers le sens de la gravité et puis aux parties aériennes dans le sens opposé de la gravité. Donc ça, c'est en rapport au fait aussi que la plante soit capable de percevoir sa position, donc la position de son corps dans l'espace. Et donc il y a des travaux qui ont récemment mis en exergue que ses capacités de percevoir la gravité seraient proches de la proprioception. La proprioception chez les humains, chez les animaux, c'est la capacité justement à se mouvoir dans l'espace, à percevoir sa position dans l'espace.
Vous n'allez pas me dire quand même qu'une plante a conscience d'elle-même, c'est pas possible ça.
Alors, faut définir ce qu'on entend par conscience, c'est toujours la même chose, mais si, d'une certaine façon, elle a conscience de la position de son corps. Alors la proprioception dans l'animal, c'est pas forcément en rapport avec la conscience directement, c'est vraiment quelque chose qui est très réflexe. Après, sur la conscience, c'est tout un autre débat. Moi, je pense qu'il y a des grandes discussions là-dessus qui sont arrivées après les questions sur l'intelligence. Mais si on réfère à la conscience comme finalement quelque chose proche de la sensibilité, elle est nécessaire pour survivre dans son environnement où on reçoit plein de stimuli. Donc si on est sensible, on active beaucoup de mécanismes et on est conscient de son environnement.
François Bouteau, le jour où vous êtes dans votre laboratoire et vous menez des expériences avec des plantes ou des morceaux de plantes, comme vous nous l'avez expliqué, et le soir, vous lisez des livres en rapport, parfois, avec les plantes, dont ce livre signé Richard Powers, L'Arbre Monde.
Oui, c'est un très beau livre. Alors, ça reste un roman. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est finalement de voir comment il mêle des parcours de différentes personnes à travers des liens finalement avec ce monde végétal. Donc c'est la relation humain-non-humain à travers les plantes qui m'a beaucoup plu à travers ce livre.
Extrait.
Toutes tes façons de nous imaginer, mangrove ensorcelée sur pilotis, la bêche inversée d'un muscadier, les trompes d'éléphant du baja noueux, le missile érigé d'un sâle ne sont jamais qu'amputations. Ton espèce ne nous voit jamais en entier. Vous en manquez la moitié, au moins. Il y en a toujours autant sous terre qu'au-dessus.
Et c'est vrai.
Et c'est vrai. Ça, c'est un point qui est vraiment très important, je crois, parce que c'est une façon de travailler où on se rend compte qu'on oublie souvent ce qui est non visible. Donc ça peut être parce que c'est microscopique. On va pas parler des champignons ou des bactéries dans le sol. Et pour les arbres, ça va être le système racinaire. Je dis pas qu'on connaît pas les racines, mais en termes de recherche, on s'est d'abord intéressé à ce qui était évident, les parties aériennes, ce qui servait aussi beaucoup à la production. Et puis, les systèmes racinaires, c'est plus difficile parce que, on les voit pas. Et puis, pour les travailler, c'est compliqué, c'est dans le sol.
Et c'est vrai qu'il y en a autant en dessous qu'au-dessus.
Alors ça va bien sûr dépendre des plantes. Il y a des plantes, il y en a plus au-dessus, et à l'inverse, il y a des plantes, il y en a beaucoup plus en dessous. Donc on peut avoir une plante qui fait 10 cm de haut et qui va avoir un système racinaire qui part à plusieurs mètres de profondeur et qui va s'étendre en largeur de façon extrêmement large.
Alors c'est connu depuis longtemps, les plantes perçoivent la lumière. Elles ont besoin de lumière pour croître, pour s'épanouir. Qu'est-ce qu'on sait du rapport entre les plantes et la lumière ?
Alors le premier rapport qui est évident, c'est justement l'utilisation de la lumière pour la photosynthèse et donc la production de sucre. Donc ça, c'est sa capacité à être autotrophe, donc c'est fondamental pour une plante. Ce qu'on sait aussi maintenant, c'est qu'en plus de cette capacité à faire de la photosynthèse, grâce à des pigments comme la chlorophylle qui captent la lumière, en fait, elle a d'autres systèmes de perception de la lumière qui vont être, eux, répartis, pas uniquement sur les parties aériennes, justement, mais notamment aussi au niveau des racines. Et ça, c'est des très belles expériences qui ont été faites par František Baluska notamment. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que les plantes, elles étaient capables de percevoir cette lumière au niveau racinaire. Et donc, ça paraît complètement contre-intuitif, puisque les racines, en tout cas la grande généralité, sont dans le sol, donc à l'obscurité. Mais justement, en fait, il faut qu'elles perçoivent cette lumière pour pouvoir, si elles sortent à l'extérieur, pour des contraintes physiques, etc., repartir dans le sol. Donc elles ont bien sûr la gravité, on en a parlé, mais cette capacité de percevoir la lumière leur permet de dire « Ah, je ne suis pas dans l'endroit où je devrais être ».
Alors on faisait des expériences en 1973 au Phytotron de Gif-sur-Yvette. Écoutez le professeur Champagna, c'était dans une émission diffusée sur TF1, « La vie secrète des plantes ».
Alors ici, ces plantes ont reçu la même lumière, la même qualité de lumière, qui est ici du rouge, ce proche infrarouge, disons. Mais là, les plantes ont reçu cette lumière au cours de la nuit à différents moments. Et nous avons une plante qui a répondu à l'action de la lumière en formant une ampe florale, en fleurissant, tandis que l'autre, ici, est restée totalement végétative.
C'est ça, il n'y a pas de fleurs.
Il n'y a pas de fleurs.
Elle a donc réagi de façon différente.
De façon très différente. Ce qui montre bien que la plante a un rythme interne et qu'on ne peut pas modifier à volonté son régime lié à la lumière ou à l'obscurité, puisque dans un cas, bien qu'éclairé, la plante n'a pas répondu à l'excitation lumineuse.
Oui, c'est un petit peu comme les hommes qui réagissent de façon différente selon les médicaments qu'ils prennent ou bien le matin ou bien le soir.
C'est exactement la même chose.
C'est-à-dire qu'on a une réponse physiologique différente.
C'est cela, c'est exactement la même chose.
Presque 50 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les plantes connaissent l'heure, il n'y a pas que la lumière qui joue.
Non, il n'y a pas forcément que la lumière. Alors, j'ai pas forcément d'exemple chez des plantes, mais chez des algues, qui sont capables de photosynthèse aussi. Et donc, il y a des algues, on sait qu'elles vont changer de forme et initier des parties de leur cycle de développement à certaines saisons. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser effectivement la durée de la lumière. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est la durée de l'obscurité qui est importante pour elles, puisque si on fait un spot de lumière au milieu de la nuit, elles ne feront pas ces changements-là. Et en fait, en plus de la lumière, comme c'est saisonnier, elles utilisent des conditions de température. Donc des fois, il y a plusieurs stimuli nécessaires pour que la plante ou l'algue soit capable de percevoir le moment où elle doit faire une transition dans son développement.
Mais on ne peut pas dire que la plante connaisse l'heure.
Non, non, bien sûr, elle n'a pas de montre, elle ne connaît pas l'heure directement, elle utilise les signaux de l'environnement pour se synchroniser.
Cachet du fait, ouais, yeah, yeah. Cachet du fait, ouais, yeah. quand j'ai du fait.
On y est en pays créole avec David Walters qui chantait Bois de l'eau.
Les Saventuriers sur France Inter.
Depuis peu, des scientifiques d'un nouveau genre découvrent que les plantes font preuve d'une certaine intelligence. Ils commencent à poser les bases d'un nouveau domaine scientifique en pleine expansion, la cognition végétale. Cela nous incite à considérer le végétal sous un angle différent. Savez-vous, par exemple, que les plantes sont capables de communiquer entre elles ?
Les plantes communiquent, oui, c'est certain. Alors, il y a des travaux qui datent du début des années 90, qui sont un peu pionniers, qui sont des travaux qui ont été faits en Afrique du Sud parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait des koudous qui mouraient en grande quantité. Et donc, ils se sont posé la question...
Les koudous, ce sont de gros animaux.
Ce sont de gros animaux, des espèces de gazelles. Je ne suis pas spécialiste en biologie animale, mais bon, oui, c'est des grosses bêtes. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces koudous étaient intoxiqués. Et donc, ils ont regardé auprès de la nourriture, donc ce qu'ils mangeaient, qui pouvait les intoxiquer. Et ils ont vu effectivement que les acacias dont ils se nourrissaient avaient accumulé des teneurs en tanins extrêmement importantes. Et donc ces tanins leur bloquaient la digestion, je crois, et donc ça les empêchait de se nourrir. Au bout d'un moment, ils mouraient. Donc pourquoi ils accumulaient du tanin ? En fait, c'est des réponses de défense des plantes, parce que les plantes se défendent. Donc lorsqu'elles sont broutées par le koudou, en fait, elles perçoivent bien sûr cette agression par plein de façons, et ça va les amener à synthétiser des molécules toxiques, ces fameux tanins, et à les accumuler. Et donc, en général, quand un koudou, il va brouter un acacia qui s'est défendu avec ses tanins, il trouve pas ça bon et il va arrêter. C'est une façon de se défendre. Le problème, c'est qu'ils ont accumulé beaucoup et en fait, ils se sont rendus compte que les plantes communiquaient entre elles de cette façon-là parce que même les plantes qui n'avaient pas été broutées par les koudous avaient des teneurs en tanins très fortes. Ce qui fait que les koudous, ils trouvaient que des plantes qui pouvaient les intoxiquer. Et en fait, comment ces plantes communiquent entre elles? Ils se sont rendus compte qu'elles émettaient un gaz, en l'occurrence l'éthylène ici. Et donc ce gaz volatile était émis par la plante. Et donc, dans le sens du vent, il allait vers les autres arbres. Et donc les arbres, avant même l'arrivée des koudous, étaient prévenus, donc en quelque sorte, de cette possibilité. Et ils se mettaient à synthétiser eux aussi les tanins. Donc il y a bien une communication entre les plantes grâce à des molécules volatiles.
Donc une communication aérienne, c'est connu chez les acacias, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces qui communiquent aussi comme ça ?
Oui, il y en a beaucoup même. On considère que si on prend toutes les plantes, elles sont capables certainement de synthétiser plus de 100 000 molécules volatiles différentes. Donc elles ont une possibilité même de spécificité dans la communication volatile qui est très importante, à savoir qu'elles peuvent communiquer entre plantes de la même espèce. Et un exemple que moi j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils sont capables de communiquer même en dehors du monde végétal, puisqu'elles communiquent aussi avec des animaux via les odeurs. Un exemple qui est très beau, je trouve, c'est qu'il y a des plantes, lorsqu'elles sont broutées par une chenille, elles vont donc percevoir cette agression, émettre des molécules volatiles, et parmi ces molécules volatiles, il va y avoir le phéromone sexuel du prédateur de la chenille.
Non.
Et donc, le prédateur va se diriger vers cette odeur, il va pas trouver de partenaire sexuel, mais faute de trouver un partenaire sexuel, il va trouver la chenille, et donc il va tuer la chenille pour s'en nourrir, et il va débarrasser la plante de ce prédateur. Donc c'est une communication à trois, en l'occurrence, là, qui se fait via ces volatiles. Et ça, il y a vraiment plusieurs exemples qui ont été décrits à l'heure actuelle par rapport à ça.
Et puis les plantes attirent aussi les animaux pour être pollinisées.
Alors ça, c'est effectivement très connu depuis très longtemps. Donc la pollinisation, l'animal va venir chercher du sucre, du nectar. Hein. Ça, c'est vraiment son mode de nourriture. Et puis il va en même temps donc avoir du pollen qui s'accroche. Et puis quand il va passer de fleur en fleur, il va polliniser. Donc effectivement, l'attraction, c'est par les couleurs, par les odeurs, par beaucoup de choses. Éventuellement, le son aussi, puisqu'on en a parlé. La fleur, au moins certaines fleurs, seraient capables de percevoir la présence de l'insecte grâce au son bourdonnement.
Donc il y a des signaux électriques chez les plantes et des signaux chimiques.
Bien sûr, des signaux électriques, chimiques, et même chez les plantes en interne, il y en aurait même d'autres, très certainement. Il y a des signaux en pression dans les tubes du xylème, donc en fait c'est les vaisseaux de sève qui montent des racines vers les feuilles. Là, il peut y avoir des signaux en pression, et donc ce signal de pression peut être décodé dans les parties aériennes pour donner une signalisation interne à la plante.
Les botanistes qui s'intéressent aux plantes existent depuis très longtemps. On a retrouvé un texte qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ et c'était le botaniste Théophraste qui écrivait ceci.
Somme toute, la plante est multiple et variée, difficile à définir en général. La preuve en est qu'il n'existe aucun organe qui se rencontre dans tous les végétaux, comme chez les animaux, la bouche et l'estomac. On ne saurait dire en effet que toute la plante est une racine, ou une tige, ou une branche, ou un rameau, ou une feuille, ou une fleur, ou un fruit. C'est dans les arbres que se rencontrent surtout ces éléments, et ce qui leur est le plus spécial, c'est la variété de ces éléments.
Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'était très bien vu. Pas de bouche, pas d'estomac, une grande variété, une grande inventivité aussi chez les plantes.
Oui, c'est très juste. Moi, je le trouve un peu fascinant, ce texte, que je connaissais pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment d'actualité, parce que c'est ce qu'on explique. Quand on pense sensibilité, on réfère toujours au système humain, animaux, et donc on voit les organes tout de suite, hein, les yeux, les oreilles, le nez. Or, chez les plantes, eh bien, il n'y a aucun organe dédié. Il semblerait qu'elles soient capables de percevoir directement par tout ou partie de leur surface. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce texte, c'est que c'est pas dit directement, mais c'est la notion d'individu. En fait, un individu, pour un animal comme nous, on sait très bien ce que c'est. Et individu, ça veut dire qu'il ne peut pas se diviser. On coupe un homme en deux. Le résultat est vite vu, il meurt.
Il est mort.
Chez une plante, en fait, la notion d'individu est extrêmement complexe à utiliser, tout simplement parce que du fait qu'elle soit sessile, c'est-à-dire qu'elle vit fixée, elle doit être capable de perdre une partie de son intégrité. On sait très bien, parce que si on a un jardin, on taille, on coupe, et même on peut l'observer, des fois, il y a des plantes qui sont cassées, 90% donc de la partie de la biomasse de la plante disparaît, mais il va y avoir un petit bourgeon qui va repartir et la plante va pouvoir se régénérer. Donc c'est une aptitude extrêmement différente des plantes qui est nécessaire parce qu'elles ne peuvent pas s'échapper, tout simplement.
Et ça nous pousse à voir le monde différemment.
Ah bah forcément, si on essaye de, ce qui est certainement très difficile d'ailleurs, de se positionner comme une plante, on doit voir le monde de façon extrêmement différente. Cette capacité, donc, à perdre une partie de son intégrité, c'est quand même très fort. Et on peut même réfléchir jusqu'aux fruits, puisque la plante, elle est capable de produire des fruits charnus. Donc, c'est une partie de son intégrité, finalement, qu'elle dédie à la consommation par un animal, puisque l'animal va venir manger le fruit charnu et donc transporter la graine. Et c'est comme ça que la graine va être disséminée, qu'une autre plante va pouvoir pousser ailleurs. Et donc, c'est quand même une conception très particulière du monde.
Écoutez ce que racontait le journaliste Pierre Gascard en 1979, l'histoire d'un homme qui s'ennuyait dans son bureau et qui a mené une expérience avec une plante.
La première expérience, la fameuse expérience dite de Baxter, je crois. Baxter était simplement un flic américain qui s'ennuyait dans son bureau et qui a eu l'idée, c'est une idée qui pourrait surprendre chez quelqu'un d'autre, d'appuyer le feu de sa cigarette sur la feuille du philodendron qui était dans le bureau. Et puis, il s'est amusé à brûler la plante. Il a vu que quand il approchait sa cigarette de la feuille de la plante, il y avait des oscillations très, très marquées. Enfin, il a dit, mais cette plante réagit à la brûlure. Par conséquent, il y a une sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il y ait douleur ou plaisir, ça n'en sait rien. Enfin, il y a des réactions, un certain traumatisme.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est connu, ça?
Alors oui, c'est même le stimuli par la flamme est quelque chose qui est fréquemment utilisé en électrophysiologie pour voir les signaux électriques, effectivement. Si on met des électrodes le long de la tige d'une plante et qu'on brûle une feuille, on voit très clairement un signal électrique qui est propagé le long de la plante.
Et quand vous menez vos expériences, est-ce que vous avez le sentiment de faire souffrir les plantes?
Alors la notion de souffrance, là encore, c'est quelque chose d'un peu complexe parce que on en a parlé tout à l'heure, la plante, elle est capable de perdre une partie de son intégrité. Donc si elle souffrait comme on souffre un animal lorsqu'on l'a blessé, ce serait un peu insupportable comme vie. Et il faut bien voir que la souffrance, donc la proprioception chez les animaux, c'est quelque chose qui est important parce qu'ils peuvent bouger, ils peuvent fuir. Donc vous mettez la main sur une plaque chaude, vous l'enlevez tout de suite, vous avez un mouvement. La plante, d'un point de vue évolutif, si elle ne peut pas bouger, elle n'aurait aucun intérêt à sélectionner la souffrance comme quelque chose de pertinent. Ceci dit, on ne peut pas savoir si les plantes souffrent. La souffrance, c'est aussi un concept qui est un peu plus large que juste ça. Et alors František Baluska, avec qui on avait des discussions, d'ailleurs on n'était pas d'accord, ni Stefano Mancuso, Baluska et moi en discutant sur ces questions-là, lui, il disait, oui, mais si on prend l'exemple de certains fruits qui sont maturés grâce à une hormone, l'éthylène, c'est la fameuse hormone qui servait à communiquer entre les acacias, en fait, elle sert à maturer certains fruits charnus, donc qui vont être consommés par des animaux. Et en fait, l'éthylène, c'est aussi un gaz anesthésiant. Et donc, on peut anesthésier une plante exactement comme on anesthésie un animal, avec les mêmes produits. Donc, il y a des expériences très jolies qui ont été faites, notamment sur le Mimosa pudica, la fameuse qui a des mouvements rapides. Vous pouvez l'anesthésier et elle perd ses mouvements. Donc, la question d'anesthésie chez un fruit qui doit être consommé, est-ce que c'est pour ce que la plante ne souffre pas ? Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un exemple. Donc en fait, je pense qu'on ne pourra peut-être jamais dire si les plantes souffrent ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les stimuli qui induisent la souffrance chez les animaux, les plantes sont capables de les percevoir exactement comme les animaux.
En tout cas, ce que vous racontez est troublant.
Oui, c'est troublant. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, à réfléchir à ces questions.
Lassa, des carins à la parade. Merci à Djoubaka qui signe la programmation musicale des Saventuriers. Et merci beaucoup à François Bouteau du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'Université Paris Diderot. Pour aller plus loin, on peut recommander les livres du scientifique Stefano Mancuso paru chez Albin Michel. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission avec Emma Ferret et Fanny Leroy. Merci à Alexandre Chenet à la technique. Une émission que vous pouvez réécouter autant que vous le voulez ou podcaster sur le site de France Inter, comme toutes les émissions passées et à venir de cette série estivale. N'oubliez pas non plus la page des Saventuriers. Samedi prochain, vous découvrirez l'incroyable univers du blob, un organisme unicellulaire qui peut être gigantesque et qui a ses préférences alimentaires et qui se déplace. Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.